Journal de Maïma. La prochaine sur la liste. Yann est assis sur la terrasse du soleil redouté, devant son ordinateur, le téléphone d'Héloïse posé à côté de lui. Il tente de les connecter pour transférer les photos de la scène de crime sur son disque dur. Je me plante derrière lui, fixant le téléphone et les photos qui défilent. Tétanisé. Yann remarque enfin ma présence. Il replie d'un geste brusque l'écran de l'ordinateur, se lève d'un bond et me serre contre lui. Je tremble. C'est le geste que j'attendais, mon capitaine. Je m'abandonne dans les bras de mon policier. Je grelotte, je suffoque. De longs sanglots tombent en averse, une pluie tropicale, brutale et brève. Déjà, je me dégage, j'attrape un torchon et j'essuie mon visage.
Tu vas trouver le salaud qui l'a tué, hein? Je vais t'aider, on va le trouver.
Je parle d'une voix plus rauque que d'ordinaire, comme amputée d'une partie de l'innocence de mon adolescence. Maïma, Feyan, ce n'est pas un jeu cette fois. Je ne réponds pas. J'avance d'un pas sur la terrasse et j'observe la porte fermée du bungalow de Martine.
Tu vas laisser Titine dans sa chambre?
Non. On va la porter sous le faré de Tanaï. Il y a une cave. Tanaï entrepose tout ce qui doit rester au frais. Elle a appelé quelqu'un du village pour l'aider à la transporter. Le curé va passer lui aussi. Il aurait mieux valu tout laisser tel quel dans la chambre en attendant que la police scientifique arrive, mais avec cette chaleur... Tanaï m'a assuré qu'avec Poé et Moana, elle dirait des prières traditionnelles. L'endroit où va reposer Martine sera tabou. Personne ne pourra le violer. Tu comprends? Ce sera un lieu sacré. Yann n'en dit pas plus. Chaque mot prononcé paraît avoir raclé sa gorge jusqu'à la sécher. Tanaï a déposé une carafe de citronnade sur la table. Il s'en sert un verre. Je n'ai pas soif.
Et les autres?
La tête de mon capitaine dodeline au même rythme lent que le balancement des branches de bougainvilliers autour de la terrasse. Les petits yeux jaunes des fleurs séchés par des mouchoirs de pétales roses paraissent partager notre peine. Chacun est dans sa chambre. Obligation de laisser les portes ouvertes. Et personne ne quitte la pension s'il n'est pas accompagné.
Même moi?
Surtout toi.
T'as prévenu les flics alors?
Yann hésite une fraction de seconde. Au bout de sa main, les glaçons dans le verre de citronnade cognent en carillon. Oui. Je patiente le temps que dans le verre la banquise se stabilise. Un court silence. Puis j'insiste.
J'espère qu'ils arriveront vite tes flics parce que ta femme sera la prochaine sur la liste.
Cette fois, le gendarme a failli renverser la moitié de sa citronnade sur le téléphone et l'ordinateur.
Farain, la prochaine? Sur quelle liste?
Je dois aller au bout de mon idée, même si Yann me prend pour une cinglée.
Réfléchis. Sur la plage d'Atuona, hier après-midi, on a retrouvé le récit de Martine sous le galet. Avant de mourir, je voudrais. C'était son testament, en quelque sorte. Et quelques heures après, elle est assassinée. Tanaï m'a dit qu'on avait retrouvé le testament de ta femme sous le galet dans la chambre de Titine.
Yann pose le verre sur la table, incapable de le tenir sans le renverser. Il hésite, puis me tend le papier qu'il a rangé dans sa poche. Récit de Farain Merson. Avant de mourir, je voudrais. Je lis silencieusement. Jamais Farain, la commandante, ne cite le prénom de Yann dans ce testament. Elle parle seulement de tout rembobiner, de vivre une seconde vie, avec un mari. Un autre mari? Avec qui elle aurait envie de fonder une famille, avoir un enfant, plusieurs enfants. Pour qui elle aurait envie de ne pas passer 60 heures par semaine au commissariat du 15e. De rentrer, de rire, voyager, aimer. Un mari qui ne serait pas un petit capitaine de gendarmerie? Je comprends que tout se mélange dans la tête de mon capitaine. Ce récit testament de sa femme, le symbole Enata sur le galet, l'aiguille de démographe plantée dans la gorge de Martine. Des larmes perlent au coin de ses yeux. C'est dingue à quel point ce flic m'émeut. Je lui tends le torchon mouillé avec lequel je me suis essuyé. Il sent la mangue, le coco et la crotte de poule. Yann se tamponne doucement les yeux sans y prêter attention. Je tente comme je peux de dédramatiser la situation.
T'es bien sentimental pour un gendarme.
Pour toute réponse, Yann se contente d'un sourire.
Ça ne veut pas dire que t'es pas super doué.
Toujours pas de traces de Pierre-Yves François?
Aucune.
Logiquement, c'est lui qui a récupéré le testament de ses lectrices.
Donc c'est lui qui tue.
Logique.
Je suis parvenu à lui arracher un nouveau sourire.
T'es plutôt utile comme adjointe.
T'en trouveras pas de meilleur dans tout le Pacifique. Et t'es pas avec Clem ce matin ? Je repense aux cheveux ébouriffés de Clem quand elle est sortie de sa douche, à sa façon un peu distante de me mettre à l'écart, à ses recommandations pires encore que celles de maman. « Laisse faire la police, ma petite souris. Surtout ne va prendre aucun risque. » Si, je suis passé la voir. Elle veut me protéger. Et surtout continuer d'écrire son foutu roman, sa version des événements. À mon avis, elle veut mener sa propre enquête, de son côté, sans faire confiance à la maréchaussée. C'est bien comme ça qu'on dit. Tu sais, toi aussi tu pourrais faire partie des suspects.
Je sais. On est tous suspects.
Même Héloïse ? Je pose les yeux sur l'écran noir et la coque aux couleurs fauves du téléphone sur la table. Même Héloïse, admet Yann. Même ta maman. Je sursaute. Maman ? Pourquoi aurait-elle tué Titine ? Yann hésite, pas longtemps.
Pourquoi pas pour cette histoire de perle noire ?
Hier midi, à table, ta mère a affirmé à Martine que sa perle ne valait rien. Or, d'après Tanae, la perle noire qu'on a retrouvée dans le lit de Martine est une perle top gemme. Elle vaut une petite fortune. J'encaisse le choc sans rien laisser paraître. Et son meurtrier n'y a pas touché ?
Non. Il faut croire qu'il n'avait pas besoin d'argent, ou qu'il ne connaissait pas la valeur de cette perle. Ou tout simplement qu'il ne l'a pas vue. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que ta maman, mariée à l'un des plus gros propriétaires de fermes perlières de Polynésie, se soit trompée.
Deuxième secousse. La réplique. Cette fois, j'y étais préparé. Tu sais, maman se trompe un peu sur tout. Yann n'a pas l'air convaincu. Il vide enfin son verre, éteint son ordinateur et se lève.
Excuse-moi, je vais devoir aller travailler dans la chambre de Martine.
Je n'ai rien pour réaliser des tests ADN, tu t'en doutes, mais en bricolant un peu, je peux me débrouiller pour relever des empreintes. Mon capitaine fait un pas sur la terrasse, puis s'arrête soudain.
Juste une dernière question, Maïma.
Tu me la joues Colombo ou quoi ?
Je suis sérieux. J'ai besoin de ton aide. Le galet que nous avons trouvé tous les deux, sur la pile de vêtements de PYF, dans les rochers de la plage d'Atuona.
Les natas ?
Oui, les natas. Était-il posé à l'envers ou à l'endroit ?
Je ne comprends pas. Pourquoi ?
Dis-moi.
Je ne sais plus, à l'envers, je crois. Mon capitaine n'a pas l'air de comprendre plus que moi l'importance de ce détail bizarre. J'insiste. Pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est Farahine qui m'a demandé ça.
Farahine, la commandante, sait ce que signifie cette enata. J'en suis persuadée depuis le début. Je reste rêveuse de longues secondes. Yann n'ose pas s'en aller.
Tu penses à quoi ?
Je ne réponds pas. Mon regard se perd loin vers l'océan, bien au-delà de l'île de Tahuata. Titine, dis-je, qui va s'occuper de ces chats ? Je sens que mes larmes ne demandent qu'à recommencer de couler. Désolé, mon capitaine, ton adjointe est encore plus sentimentale que toi. Je n'ai pas envie de retourner voir maman, ni Clem. J'ai juste envie d'aller relever les empreintes avec toi. Derrière nous, Tanae est sortie de la cuisine en silence. Elle s'adresse à Yann comme si je n'existais pas.
Kamai, un pêcheur de Tahaoku, vient de m'appeler. Il a trouvé quelque chose ce matin au-dessus du port. Il voudrait que vous alliez voir directement là-bas.
Tout de suite, je devine que mon capitaine pense à un cadavre. Un cadavre rejeté par les vagues jusqu'au port. Un cadavre guère difficile à identifier, même s'il trempe dans l'eau depuis hier. Personne d'autre que Pierre-Yves François ne manque à l'appel.
Maïma, ordonne-t-il. Tu voulais te rendre utile ? Va me chercher Farahine, Héloïse, ta mère et Clem. Nous allons tous voir ce pêcheur, ensemble. On ne se sépare pas. Toi, tu restes là, avec Poé et Moana, et tu obéis à tout ce que Tanae te dira.